Le vendredi 26 mai 1967, j'étais dans mon bureau, j'avais enfilé ma blouse, attendant mon premier rendez-vous de l'après-midi, prévu à 15h30, quand une voisine, bien connue dans la ville et les alentours, pour son excellent boudin et ses andouillettes fameuses, Madame Bégarin, vint m'annoncer que des CRS avaient tiré sur des ouvriers. Elle m'expliqua même, à grand renfort de gestes, qu'une camionnette venait tout juste de se diriger vers le centre hospitalier avec à son bord un blessé. Ce que l'on sait moins aujourd'hui, c'est que le faubourg Victor Hugo, peu éloigné de la place de la Victoire, était le chemin couramment emprunté pour se rendre à l'ancien hôpital général devenu centre Gricou depuis la construction du CHU. Instinctivement, je compris qu'il m'appartenait d'apporter mon concours, car les circonstances semblaient empreintes de chaos et d'imprévisibles. Au demeurant, mon cabinet était le plus proche de l'hôpital. Je savais que les blessures par arme de guerre nécessitaient des prises en charge rapides et un véritable savoir-faire de par mon expérience encore récente de la guerre d'Algérie. J'avais conscience aussi que beaucoup de gens seraient effrayés, désemparés par le spectacle des blessés et peut-être des morts. Et puis surtout, j'étais jeune, 33 ans. Rempli d'espérance, fougueux et probablement téméraire. Dans la cour du centre hospitalier, j'ai vite remarqué un petit attroupement. Un homme jeune gisait à l'intérieur d'une camionnette, ses deux mains, dans un ultime réflexe de survie, tentait de contenir ses entrailles qui avaient déserté son ventre. Il était dans le coma. Des personnes, vraisemblablement des badauds, le regardaient pétrifié, n'osant pas le toucher. Soudain, un agent hospitalier que je connaissais bien, Madame Tarère Marcel, se mit à crier de colère et d'impuissance. On tue nos enfants, on est en train d'assassiner notre peuple. C'était un cri de révolte, d'amour aussi, c'était un cri d'indignation, de désarroi. Je me revois prenant dans mes bras ce jeune homme pour l'installer dans un brancard. Madame Tarère m'aida sans un mot à pousser le chariot dans le couloir qui donnait accès à la chirurgie. Mon ami, le docteur Yacine Bastao, était le seul chirurgien présent parce qu'il travaillait à temps plein. Il prit le mourant en charge, et déjà la clameur du dehors nous fit comprendre qu'il y avait d'autres victimes. C'était malheureusement la triste réalité, car deux autres blessés étaient arrivés. L'un jeune avait la boîte crânienne éclatée. Le cerveau dégoulinait littéralement. Il était lui aussi dans le coma. Il eut une dernière convulsion, ses yeux vitreux se révulsèrent et il mourut dans mes bras, sans que je n'ai pu lui prodiguer le moindre soin. Dans la chambre où il avait été installé, était allongé sur un lit contigu un deuxième homme, encore conscient, mais touché gravement au thorax. Il avait assisté à la mort de son compagnon d'infortune, m'avait interrogé de la tête sur son sort, et devant mon silence navré, deux larmes s'étaient échappées de son visage accablé. Pendant que je lui plaçais une perfusion, le docteur Bastaro vint m'annoncer que le blessé que je lui avais amené était mort. On a tiré presque à bout portant, me dit-il, il avait le bassin éclaté. C'est à ce moment qu'arriva l'équipe médicale. Le docteur Bastaro me remercia d'être venu spontanément prêter mon concours, le relais médical assuré, je pouvais regagner mon cabinet. Assis dans ma voiture, j'ai l'impression d'un grand vide intérieur, d'un sentiment de négation de toute humanité, mais surtout d'une profonde injustice. J'étais anéanti. Je sentis soudain des fourmillements dans mes membres, des tiraillements au niveau du visage, une crampe violente et soudaine dans la région épigastrique. J'étais aux prises avec les affres d'une crise de spasmophilie qui s'était révélée à cause du stress.